Je vais d'ailleurs devoir tricher un peu pour tenir.
Non, triche pas.
Dans ces 12 minutes, et pour tricher, je vais devoir m'appuyer sur beaucoup de choses que vous pourrez consulter après coup sur nos sites, puisqu'il s'agit en tout de 12 sites. 12 sites internet. Contrairement à ma camarade de Haute-Normandie qui parlait de préhistoire ou de jeunesse ou de fougue, j'ai l'impression d'être un peu le grand-père. Parce qu'on a commencé en 95, donc on a déjà une histoire assez importante, que ces 12 sites ne sont pas, bien sûr, nés de ex nihilo en 95, mais sont apparus au cours de ces 13 années, bientôt, d'existence d'une structure qui, effectivement, a émergé en Poitou-Charentes. Alors, je vais... Effectivement, j'ai prévu un texte que je peux lire en 10 minutes, mais je ne vais pas le faire. Je le remettrai à Angèle Fauré qui pourra vous le donner, ainsi que le diaporama. En l'occurrence, je préfère réagir et donner les grands points de ce texte que vous pourrez avoir, parce que sinon on survole vraiment les choses et on avance très, très, voire trop vite. Donc, pour savoir qui nous sommes, ce qu'on fait ou autre, le site institutionnel adressé aux professionnels, c'est celui que je présente en ce moment, qui est interregionmusée.org, sans accent, au pluriel, avec des traits d'union. Vous aurez bien sûr tout ça dans le document, et à partir de là, vous aurez l'ensemble des informations sur qui on est ou autre. Il y a un site grand public qui est le site Aliénor, qui lui va présenter les collections, etc. Et c'est un site qui fait plus de 7800 pages statiques sur le net, avec une base de données en ligne de collections, qui attire 697 000 visiteurs, parce que nous avons fait une étude l'année dernière en 2006, ce qui fait à peu près le double de visites, puisqu'on a calculé que la moyenne des visites était à peu près de 2 par visiteur. Mais vous avez aussi un site qui s'appelle Babel, trait d'union musée.org, qui lui va interconnecter des bases de données différentes, j'en parlerai assez rapidement tout à l'heure. Un autre site qui s'appelle sphinxmusée.org, qui lui met en œuvre un outil que nous avons développé d'analyse de données patrimoniales, et puis des sites à destination des scolaires, et plus particulièrement des scolaires de la région Poitou-Charentes, qui s'appelle inventez-vous-un-musée.org, qui permet à des scolaires d'inventorier le patrimoine de leur établissement scolaire ou de mettre en avant l'ensemble des collections. Nous avons récemment ouvert un site qui a été un peu un valideur sur l'accessibilité de nos sites internet auprès des handicapés, qui est océaniedeslumières.org, qui présente la découverte de l'Océanie à travers les collections essentiellement du Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, des musées de Rochefort et des musées d'Angoulême, qui ont pas mal de collections en ce sens. Et puis nous avons aussi toujours grand public, puisque une de nos particularités est plutôt d'être orienté informatique sur la centrale et de développer des logiciels utilisés par les musées. Nous avons aussi un projet de logiciel libre qui est en cours de gestion des collections, qui s'appelle Aliénor Web Libre, et qui est diffusé sur sourceforge.net, et qui évolue au fur et à mesure, avec une centralisation, par exemple, des thésaurus ou autres. J'en parlerai aussi. Donc je vais m'axer plutôt à montrer, alors je vais mettre le diaporama, à montrer ce qu'est le réseau, et plus particulièrement mettre en avant, non pas un réseau... je cherche le diaporama, voilà, non pas un réseau électronique, pas uniquement un réseau électronique, mais avant tout un réseau humain. C'est-à-dire que le réseau s'est bâti sur la volonté de mutualiser des objectifs, et de mutualiser quatre types d'objectifs. D'abord, de mutualiser les objectifs des gestionnaires de territoire, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux qui ont des demandes particulières sur l'exploitation du patrimoine d'une région, de l'exploitation du patrimoine d'une ville ou d'un département, avec bien évidemment des objectifs touristiques, etc. Le deuxième axe de mutualisation sont l'axe de mutualisation des matériels, des moyens matériels et humains. Une des problématiques qu'on avait en 1995, c'est qu'il y avait des musées sans ordinateur dans le musée, sans station de numérisation. Aujourd'hui, on en est à la fourniture de stations de marquage RFID des objets. Donc il y a toute une partie d'équipement de l'ensemble des structures, à la fois de matériel, mais aussi de la partie humaine, c'est-à-dire de personnel en centrale dans chacune des régions, qui permet de coordonner les actions. Le quatrième axe de mutualisation était la mutualisation de la communication. Je crois que mes collègues qui ont parlé juste avant moi l'ont bien précisé. Communiquer au public un certain nombre d'informations, c'est lourd, ça demande énormément de travail. Le fait de pouvoir être plusieurs musées à mettre collectivement quelque chose sur le net fait effectivement des sites comme Aliénor, qui sont alimentés par l'ensemble des musées de la région. Et si un musée, il y en a 30 en région, fait un dossier par an, une exposition virtuelle par an, on se retrouve avec 30 expositions virtuelles sur le site sur l'ensemble de l'année. Donc cette mutualisation de communication est très importante. Elle était aussi d'ailleurs une demande forte de la mutualisation des gestionnaires de territoire. Pour pouvoir faire ça, il a fallu établir des règles pour que tout le monde y participe sans crainte ou sans incompréhension du réseau. La première, c'est de faire d'abord un réseau humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être que électronique. Le fait de se rencontrer, le fait de discuter ensemble des avantages, des inconvénients de l'ensemble des outils, a toute son importance. La deuxième règle, c'est à savoir que les compétences ne doivent pas être dans des sociétés extérieures au réseau, mais à l'intérieur du réseau. C'est-à-dire que nous n'achetons pas de logiciels, nous sous-traitons la plupart du temps des développements que nous achetons, que nous intégrons à l'intérieur du réseau et qui devient la propriété collective. La troisième règle, c'est que le personnel commun à une région n'est pas regroupé dans une société de services. Ce n'est pas une société de services qui va apporter un certain nombre de services à une collectivité territoriale. C'est la structure centrale est une structure plutôt de communication et de mise en relation de l'ensemble, je dirais de mise de l'huile dans les rouages, plus que d'apporter des solutions. Alors, cette mutualisation des objectifs, comment elle se réalise? Alors, en espérant que là, ça passe, je suis donc sur le site public, je vais aller chercher une fiche diffusée publiquement. La première problématique qui s'est posée, c'est qu'on avait un conseil régional qui nous demandait de médiatiser des collections et l'État qui nous demandait de gérer les objets. L'un étant prêt à mettre une certaine somme pour la gestion des objets, l'autre étant prêt à mettre une autre somme pour tout ce qui était médiation. Nous avons donc voulu agglomérer les deux objectifs ensemble. Pour ça, nous avons développé, alors je ne vais pas aller en bande dessinée parce que pour des problèmes de droit, il n'y a pas les images, on va aller plutôt sur de l'art. Nous avons donc fait un logiciel qui permet la gestion des collections, c'est la bande dessinée au départ, on va les voir apparaître surtout si je change de page, petit à petit on a des armes. Donc qui permet cette gestion et qui, sans transfert de technologie ou autre, permet leur diffusion. C'est uniquement un filtre qui permet de choisir l'information qui passe au public. Ce qui veut dire que l'application en question a une signature électronique de l'information pour dire à partir de quel moment elle est validée. Alors, je vais afficher une fiche, j'aurais bien voulu afficher une toile ou pour des raisons...
Une petite question, ça c'est l'accès public,
grand
public.
Ça, je suis l'accès public. Je vais passer dans une minute sur l'accès privé pour vous montrer le rapport qu'il y a entre les deux. Mais là, je suis dans un accès public sur l'objet. On va prendre celle-là. Donc, j'affiche une fiche publique dont l'information a été visée, validée. Il peut y avoir une ou plusieurs images. Je ne rentre pas dans un certain nombre de détails là-dessus. En revanche, je vais rentrer maintenant en parallèle dans l'application de gestion des collections qui se trouve, elle aussi, être sur le net. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel gestionnaire de collection peut y accéder de n'importe quel endroit du territoire. Le télétravail de chez soi s'est développé en région. Ça pose d'autres problèmes, c'est les limites, parce que au bout d'un moment, les gens finissent par oublier le week-end, on va dire. Donc, je vais pouvoir accéder à cette application, aller rechercher exactement la même fiche. Alors pour ça, je vais regarder son numéro d'inventaire, ce sera le plus simple. Ça, c'est la fiche. 928-6R. Non, étoile, c'est pour avoir tous les objets qui commencent par 928. 6, voilà. Comme ça, j'étais sûr de le retrouver. Il est là. Donc là, je suis dans l'application professionnelle, dans laquelle je vais pouvoir gérer mes mouvements, gérer mes restaurations d'œuvres, gérer les valeurs d'assurance, etc., etc. Et je suis donc sur une fiche qui a obtenu un visa de publication signé par un conservateur, en l'occurrence le conservateur des musées des Beaux-Arts d'Angoulême, d'accord, qui en a autorisé sa publication. Je suis là à Paris en ce moment et je peux aller modifier sa fiche. Je vais même faire une énorme bêtise. Je vais remplacer art par Toto, d'accord, et tout un système de collaboration va se mettre en place. D'abord, vérification d'éléments obligatoires, mais déjà vérification des termes par rapport au thésaurus. Je vais confirmer ma modification dans les thésaurus et automatiquement, un mail est parti à des modérateurs de thésaurus pour dire qu'aujourd'hui, Pascal Villa vient de mettre Toto dans le thésaurus des disciplines. D'accord ? Ils sont un peu habitués à ce que je fasse ça, donc les modérateurs de thésaurus ne m'en voudront pas, mais pour vous donner une image, sur la région Poitou-Charentes, il y a plus de 2000 mails comme ça qui s'échangent par jour. Alors, heureusement, on a des processus automatiques derrière qui permet aux gestionnaires de thésaurus de soit apporter rapidement le complément de formation, la personne n'a pas trouvé le bon terme parce qu'elle n'est pas compétente en ce domaine, soit agrandir le thésaurus. Et puis enfin, je peux modifier cette fiche. Comme elle est déjà publiée, on me demande de justifier. Vous voyez que je mets encore n'importe quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, ma fiche est censée être modifiée. Pour autant, et heureusement pour moi, si je regarde la fiche sur Internet comme dans la base de données professionnelle, je vais l'afficher et actualiser, elle n'a heureusement pas changé, d'accord ? Et je ne vais pas voir apparaître Toto à discipline, j'ai bien toujours A.
On vous surveille de près.
Voilà, exactement. Tant que le responsable de la collection n'a pas validé la modification, elle n'apparaîtra pas au public et professionnellement, je vais retrouver à la fin de la fiche 928-6R, les propositions de modification qui ont été faites. Ça a aussi un intérêt, c'est de trouver des chercheurs communs qui vont pouvoir travailler sur une collection à travers différents musées de la région. Je pense à des missions sur l'Océanie comme celle de Roger Boulet pour le National, qui a pu comme ça voyager de musée à musée, étudier les collections des musées et apporter ses compétences. Et pour autant, le conservateur en lui-même, voilà, on retrouve ma proposition de modification. Le responsable de la collection n'aurait plus qu'une chose à faire, c'est de dire « je l'accepte ». Il est évident que je vais la refuser. Parce que là, si je l'accepte, elle passe sur le net. Donc voilà un type de mutualisation autour de l'inventaire. Il y a eu mutualisation des moyens financiers aussi. Parce que tout ça, il y a un air de la guerre qui est problématique. Et cette mutualisation des moyens financiers s'est répartie sur une région en trois tiers. Un tiers par l'État, un tiers par la région, par le conseil régional. Donc, effectivement, initialement, comme nos collègues de la Haute-Normandie, de la Basse-Normandie, pardon, sur un contrat de plan, initialement, qui s'est pérennisé et est hors contrat de plan maintenant, mais dont les objectifs communs sont enfin établis. Et puis, il y a les villes qui adhèrent au réseau et qui payent une quote-part. Et on se retrouve avec un équilibrage sur à peu près un budget pour une région de 300 000 euros avec 100 000 euros pour chacun des tiers.
C'est l'opération globale, le coût de l'opération globale ?
Voilà, sur une région. Pour une année, oui, tout à fait. Ça, c'est quand même des moyens importants. Mais je vous rappelle qu'on fournit l'équipement dans les musées. C'est-à-dire qu'on apporte des machines, des stations de numérisation ou autre. Voilà. Voilà un type de collaboration qui se produit. Je vais vous en montrer une autre en partant de la base professionnelle. Et puis, je crois que j'arrive au bout de mon temps.
Parce que je vous ai à l'œil. Hein.
Oui,
tricher,
voilà. J'arrive au bout de mon temps. Donc, je vais arriver là-dessus. On s'est rendu compte qu'on avait dans la base privée à peu près 70 000 objets et dans la base publique beaucoup moins. Parce que le valideur, le signeur de l'information est celui qui est le plus débordé dans le musée. Qui plus est, il est le plus débordé, mais c'est donc celui qui passe le moins de temps sur l'outil informatique et qui donc le manipule le moins bien. Il a moins de notion des normes de saisie, moins notion des virgules, quand est-ce qu'on met une majuscule, quand est-ce qu'on n'en met pas, etc., etc. Et la qualité d'un site, c'est aussi ça qui transparaît. Du coup, les conservateurs nous ont dit, les conservateurs en chef en l'occurrence, qui sont là visés directement, nous ont dit que ce serait bien qu'on ait une pré-analyse de la fiche qui nous attire l'attention sur tout ce qui ne va pas dans ce qu'on fait les travaux des saisisseurs, des documentalistes et tout le monde collectivement. Pour pouvoir faire ça, alors nous avons inventer un logiciel, ou plus exactement, racheter des briques de logiciels qui viennent de l'industrie aéronautique. C'était un logiciel qui conseillait les contrôleurs aériens sur l'atterrissage des avions. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui se présente, la direction du vent est de tel sens, la longueur des pistes est de telle taille, bah, on va pouvoir dire cet avion, on le fait atterrir sur la piste AB ou je ne sais pas quoi. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce logiciel, c'est qu'on parlait en langage naturel. C'est-à-dire qu'on parlait vraiment, on disait... Un avion, un Boeing 737, ça a besoin de tant de mètres pour atterrir. Ça atterrit toujours face au vent, etc., etc. Et avec toutes ces règles, le logiciel apportait un conseil au contrôleur aérien. On a racheté des briques logicielles de ça, en en prenant la propriété intellectuelle, et on a modifié tout ça pour en faire un langage patrimonial. Où cette fois-ci, on ne va plus parler de Boeing 737, mais on va dire, voilà, un objet... de typologie feugère, et forcément d'époque gallo-romaine, et forcément d'industrie métallurgique, et forcément de dénomination fibule. Et on a pu bâtir comme ça un certain nombre de règles. Alors, ça évolue encore, inutile de vous le dire, parce que ça va du muséum au musée automoto-vélo, au musée de la bande dessinée. Donc le panel de règles est très très élevé. Et en fonction de la tâche que l'on veut faire, on va soumettre nos fiches à... ce sphinx, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, en disant, eh bien, c'est un sphinx un peu gentil, parce qu'il ne mange pas le conservateur s'il répond mal, mais il apporte des suggestions que le conservateur accepte ou pas là-dedans. Donc je viens d'en lancer un. Il vérifie aussi toutes les fiches liées pour vous montrer. Tout cela est ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sphinx, sur le site sphinxmusée.org, si vous envoyez vos fiches provenant, je ne sais pas, pour citer les logiciels existants d'Actimuseo ou autres, vous pourrez vérifier vos fiches par rapport à nos règles. Mais on a même prévu le fait que vous puissiez faire vos règles. C'est-à-dire que chaque région, chaque spécialité pourrait se faire des règles d'analyse en ce sens. Voilà aussi, si vous voulez, les orientations qu'on prend aujourd'hui dans la mutualisation, c'est d'ouvrir effectivement au maximum et de dire, bon, eh bien, aujourd'hui, les outils qu'on a bâtis, on les ouvre au plus large public là-dessus. Je ne l'avais pas invoqué, mon sphinx.
Quand vous dites au plus large public, c'est public professionnel.
Public professionnel pour les outils. D'où le projet Aliénor Web Libre, qui est en ligne, qui permet effectivement de faire un inventaire juridique de ces collections. Malheureusement, pas encore gérer les mouvements, etc., etc., mais qui est fait en logiciel libre, PHP, MySQL, pour les citer, disponible. Mais de la même façon, eh bien, puisque des régions nous le demandaient, on a changé nos statuts, on s'est ouvert, et on s'est transformé de Conseil des musées Poitou-Charentes en Conseil interrégional des musées, pour que des moyens puissent être mis en commun entre différents musées. Voilà, j'ai mon rapport du Sphinx sur lequel je vais conclure qui est apparu et qui dit par exemple que sur cette fiche qui est pourtant publiée en ligne, eh bien, il devrait y avoir plusieurs domaines puisque l'ADMF recommande que deux domaines soient mis dans les peintures et enfin dans les objets muséographiques, un domaine de type type de conservation et un domaine de type disciplinaire. Quand c'est en ethnographie, c'est un domaine de type fonctionnel et un domaine de type de conservation. Et là, en l'occurrence, le conservateur a choisi de ne mettre qu'un seul domaine. Mais il a eu l'alerte. Il sait qu'il outrepasse une règle, une recommandation, on va dire, en le faisant. Voilà, je vais m'arrêter là en concluant que tous ces sites professionnels que je ne peux pas tous vous montrer là comprennent aussi un wiki interne qui permet de définir les fonctionnalités, c'est-à-dire que la plupart de ces applications sont des animaux vivants en quelque sorte, où régulièrement nous nous réunissons en disant voilà, il faudrait une nouvelle fonctionnalité. Il n'y a pas très longtemps, on a rajouté tout ce qui était gestion des contrats de cession de droits pour les photos, etc., etc., dans l'application de base de données. Ça, ce sont des éléments qui vivent. Le prochain projet étant de mettre en gestion tout ce qui est rapport mouvement-objet aide à la visite. C'est-à-dire, entre autres, au CNBDI, pour des raisons de conservation, ils sont obligés de faire tourner les planches tous les 3 mois, toutes les planches exposées. Eh bien, nous allons faire en sorte que les bornes détectent automatiquement quelles sont les planches qui sont dans la pièce et diffusent le contenu de la borne en fonction des planches exposées. Voilà.